Philippe Reva. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, la criminalité augmente à Genève. C'est le message du procureur général Daniel Zappelli. Il confirme les inquiétudes de l'ONU et de la Confédération sur l'insécurité à Genève. Daniel Zappelli qui est avec nous en direct dans ce forum. On va s'intéresser dans ce forum aux riches et à leurs impôts. Le milliardaire Warren Buffett exhorte les États-Unis à le taxer davantage, lui et ses amis milliardaires. Même appel en Italie du patron de Ferrari. En ces temps difficiles, les regards se tournent vers les riches. Contribuent-ils assez à nos sociétés? L'un d'entre eux accepter d'être avec nous ce soir, l'entrepreneur Jean-Claude Biver. Il dialoguera avec le président socialiste suisse Christian Levrat qui lance une initiative pour taxer les héritages. Et nous aurons aussi un homme qui connaît bien les riches, il les conseille, c'est le fiscaliste Philippe Quesnel. Les riches qui sont en débat ce soir dans Forum, ce sera dans quelques minutes. Faut-il mutualiser les dettes européennes, mettre en un seul panier les dettes de tous les pays européens, des plus mal notés aux meilleurs élèves? Les dettes pourries de la Grèce ont-elles contaminé les dettes saines de la France et surtout de l'Allemagne? C'est la question qui va se poser rapidement aux Européens. À Merkel et Sarkozy, en premier lieu, ils sont réunis en ce moment. L'Allemagne a refusé jusqu'ici la création d'emprunts européens. C'est un débat crucial pour l'avenir de l'Europe et le nôtre aussi. On l'ouvre à 18h20. Qu'est-ce qu'un film engagé? Vaste question qui a rebondi à Locarno cette année avec la polémique sur le documentaire de Fernand Melgar. Certains y ont vu un conflit de génération entre moderne et 68art. On ne tourne plus de films engagés aujourd'hui comme on le faisait il y a 40 ans. Le débat ce soir va réunir le scénariste des Petites Fugues, Claude Muret. Il a collaboré avec les films, avec Melgar sur ses films. On aura le directeur de la Cinémathèque de Genève et de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Il était à Fribourg autrefois, Edouard Weintraub. Et puis un cinéaste engagé, lui, Daniel Kunzi, qui fustige une certaine neutralité helvétique dans le cinéma. Cinéma et engagement politique, on va en débattre à 18h40. Nous demanderons à un responsable de l'EPFL pourquoi son école est-elle si mal classée dans le classement de Shanghai des universités. Il a quelques bonnes raisons à nous donner. On tentera aussi de comprendre comment le CICR veut désormais agir lors de cyberguerres. Et oui, le CICR agira désormais dans les cyberguerres aussi. Enfin, Alain Croubalian à Zurich nous dira qu'un commissaire suisse sévit dans la série culte Tatort qui passionne les Allemands, les Autrichiens et les Suisses alémaniques et en allemand tous les dimanches soirs. Les épisodes suisses font grincer quelques dents du côté politique, semble-t-il. C'est ce que nous dira Alain Croubalian. Il fera jusqu'à 30 degrés demain après-midi, 31 jeudi, puis le retour des averses. La météo de Carole Dubuis à la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
Et puis juste avant de développer ces titres, je vous propose d'écouter cet étonnant document sonore qui vient de nous parvenir.
Depuis le 12 août 2011 à 12h30, je suis entré dans une nouvelle grève de la faim. Ceci est une décision grave qui ne peut être choisie que lorsque tout a été déjà tenté. Elle représente une dernière chance, un ultime espoir. Son but est clair et réclame simplement justice quand je m'insurge contre l'acharnement qui m'est systématiquement opposé.
Et oui, ce communiqué lu par téléphone depuis une prison valaisanne marque peut-être le début d'un nouveau feuilleton. Le chanvrier Bernard Rapat débute une nouvelle grève de la faim. Il estime que la prison lui refuse un congé d'un jour auquel il dit avoir droit.
L'insécurité refait parler d'elle à Genève après l'agression d'un jeune fils de diplomate suivi d'une mise en garde de l'ONU à ses employés. Le cas suivait celui d'un jeune élu municipal victime d'une agression gratuite. Ce matin, sur notre antenne, la conseillère d'État en charge de la sécurité, Isabelle Rocha, a plutôt relativisé cette montée de l'insécurité et des agressions. Elle veut accélérer le rythme des réformes dans la police pour disposer d'unités dédiées aux interventions urgentes. Avec nous ce soir, pour évoquer le phénomène, le procureur général du canton de Genève, Daniel Zappelli, bonsoir.
Bonsoir.
Alors le DFAE s'est inquiété hier de la détérioration de la sécurité à Genève. D'abord, est-ce que vous confirmez le terme? Est-ce que la sécurité se détériore à Genève?
J'ai en tout cas ce sentiment-là, je partage ce constat.
Dans un discours en 2008, Daniel Zappelli, vous alliez déjà dans ce sens-là, vous vous disiez Genève est un coupe-gorge, moyenâgeux, des zones de non-droit à Genève. Aujourd'hui c'est le même discours, vous réutilisez la même expression?
Disons, entre coupe-gorge ou recevoir un coup de couteau parce qu'on ne donne pas une cigarette à un groupe de personnes, je vois pas la différence sémantique. Dans un cas de figure comme dans l'autre, eh bien une personne est agressée au couteau ou à l'arme blanche, voire plus. C'est des faits tout à fait inacceptables.
Une agression pour une cigarette, là on parle d'une violence nouvelle, brutale et gratuite. C'était pas encore le cas à Genève jusqu'à aujourd'hui?
ça l'a été. Le problème est que la problématique de que certains quartiers sont devenus infréquentables, ou disons peu salubres ou peu sûrs, persiste et perdure. Et pour ceux qui se souviennent de ce qu'était Genève il y a 20 ans, ou voire même 10 ans, eh bien, il est un constat objectif de dire que Genève n'est plus aussi paisible qu'autrefois. Donc l'image d'Épinal de Genève est passablement, me semble-t-il, écornée pour différentes raisons, mais il y a également différentes solutions.
Justement, venons-y, c'est l'homme de loi qu'on reçoit ce soir. Quelle solution ? D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un climat d'impunité qui pourrait conduire à ce genre d'acte ?
Alors, impunité, non. Tout d'abord parce que le ministère public de Genève est en permanence 24 heures sur 24 pour traiter tous les dossiers qui lui sont soumis par la police. Et donc, nous fonctionnons pour les cas les plus bénins comme une sorte de tribunal des flagrants délits, savoir qu'une personne est interpellée, le cas est aussitôt soumis au ministère public, et le ministère public peut, sur le siège, si j'ose dire, rendre une décision condamnatoire. Le problème, c'est que c'est l'arsenal législatif qui, alors que la situation ne s'améliore pas, l'arsenal législatif, lui, est devenu plus faible. J'en veux pour preuve deux types de lois. Tout d'abord, la loi qui est entrée en modification du code pénal et qui a introduit les jours amendes, ça a été abondamment discuté, mais il est clair que des jours amendes, c'est pas dissuasif du tout, s'agissant de personnes qui, au demeurant, craignent plus la prison pour autant qu'elles la craignent, mais craindre des jours amendes avec sursis, là, je crois que personne ne le craint à part le citoyen, l'honnête citoyen, dans une tranquille bourgade du centre de la Suisse.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque pour une brutale agression en pleine nuit, gratuite ? Une nuit de prison, plus ?
Alors, il faut distinguer, j'y viens, il faut distinguer la peine que l'on reçoit au final de la détention. Est-ce qu'on est détenu ou pas à titre préventif ? Et depuis 2011, la marge de manœuvre qui est dictée par le nouveau code de procédure pénale, eh bien, cette marge de manœuvre des autorités de poursuite pénale s'est réduite. En d'autres termes, la nouvelle procédure est plus gentille avec le criminel, de la même manière, à partir de 2011, de la même manière que le code pénal est devenu beaucoup plus gentil avec les criminels qu'il ne l'était par le passé. Donc, les législateurs fédéraux, le législateur fédéral, au fond, diminue l'arsenal. Or, il est quand même un fait objectif de dire que Genève, puisqu'on parle de Genève, mais la Suisse de manière générale, est sous le coup d'attaques de bandes souvent organisées, ou même de bandes désorganisées, mais en tout cas d'un nombre d'infractions tout à fait impressionnants, dont les citoyens pâtissent.
Daniel Zappelli.
Et pour répondre, excusez-moi, mais pour répondre à ces agressions-là, eh bien l'arsenal législatif diminue. C'est comme si avant nous disposions d'un pistolet en bonnet due forme pour répondre, maintenant on a un pistolet à eau. Et c'est du ressort du législateur fédéral que d'augmenter la réponse législative pour nous donner les armes pour nous battre.
Alors on vous entend bien, hein, sur le volet législatif, code pénal, code de procédure, inefficace en l'occurrence. Mais au fond, est-ce que l'affaire n'est tout simplement pas une question de proximité de police ? Au fond, on est sur le terrain, on met les policiers au bon endroit, à la bonne heure, on réprime. Est-ce que vraiment il faut aller chercher dans les sphères judiciaires, législatives? Est-ce que tout simplement le travail n'est pas fait à Genève et la responsabilité à la droite qui a en main la police et la justice à Genève?
Non, alors là, clairement le problème est passablement identique dans le reste de la Suisse. La loi qui essaie de modifier, eh bien, c'est de la responsabilité des législateurs fédéraux, d'une part. Quant à l'organisation de la police, c'est pas de mon ressort. Donc je ne peux pas me prononcer sur l'opérationnel, c'est pas du tout du ressort de la justice. La justice est là pour traiter les cas qui lui sont soumis, et le ministère public de Genève traite avec la diligence voulue toutes les infractions qui lui sont soumises. C'est clairement une absence complète de tolérance, pour ne pas dire une tolérance zéro, si vous préférez ce terme, pour le traitement des crimes, mais y voir une responsabilité politique. On est tous dans le même bain, si j'ose dire, gauche-droite, et la gauche ou la droite, dans ce contexte de justice, ça n'a pas de sens. Une infraction est commise, elle est sanctionnée. D'ailleurs, la preuve qu'il n'y a pas d'impunité à Genève, c'est que Chandelon, On a constaté une baisse tout à fait significative du nombre de détenus à Chandelon depuis l'introduction du nouveau droit, mais je vois la preuve d'une dégradation de la situation dans le fait que nous sommes passés de plus de 600 à moins de 400, et maintenant nous sommes remontés à plus de 460-470 détenus. Donc à l'heure actuelle, Chandelon, même avec le Cento Rapido, est suroccupé à 125%.
Daniel Zappelli, je vous remercie. Votre appel ce soir à nouveau au législatif. Vous êtes le procureur général du canton de Genève. Très bonne soirée, merci beaucoup.
Je vous remercie, au revoir.
Trois invités avec nous, Christian Levrat, président du Parti Socialiste Suisse, Jean-Claude Biver, patron des montres Hublot, et puis Philippe Quesnel, avocat fiscaliste. On va parler des riches, comme on dit vulgairement. Je vous remercie messieurs d'être avec nous. Jean-Claude Biver, vous acceptez le terme riche, bon, vous êtes entrepreneur, vous l'avez fondé avec vos mains, mais vous êtes un peu à ce titre-là avec nous ce soir, on vous en remercie. Ça vous va comme titre?
Je dirais que je serai riche le jour de ma mort. Jusqu'à la mort, tout peut arriver. Tout peut basculer, rien n'est jamais acquis. Donc le vrai succès, il se mesure le jour où on part. Et ce jour-là, il faut laisser derrière soi des traces. Et c'est ça le succès. Donc je suis dans une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire m'a bien réussi. Et voilà. Mais riche d'amour, oui.
Riche d'amour et d'eau fraîche. Jean-Claude Biver, quand vous entendez Warren Buffett, le milliardaire américain, le patron de Ferrari aussi en Italie, qui disent un peu comme on bat sa coupe, taxez-nous plus, on paye pas assez d'impôts. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, qui payez des impôts en Suisse?
Je leur dirais, venez en Suisse et gagnez votre argent en Suisse. En Suisse, vous payerez plus d'impôts qu'aux États-Unis. Pour autant qu'on gagne de l'argent, si on vit en Suisse sans avoir de revenus, c'est différent. Mais qu'ils viennent en Suisse. Et moi, à la place de Buffett, je dirais peut-être la même chose. Mais par contre, en ce qui me concerne, moi, je paye mes impôts en Suisse et je trouve que c'est un luxe que je peux me permettre de payer mes impôts en Suisse. Et c'est une fierté, c'est une civilité. Et j'ai l'impression de rendre un peu à la société ce que la vie me donne. Mais lorsque le montant dépasse 60 ou 70%, bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle le barrage, ou je ne sais plus comment on appelle ça, on ne peut pas dépasser 70%, il y a un moment donné où on a quand même l'impression que c'est trop. Mmh. Mais voilà, mais je trouve que payer l'impôt, c'est un vrai luxe, on doit pouvoir se le permettre, on doit se le permettre, c'est une fierté nationale, c'est une contribution au développement du pays, et il n'y a pas à chicaner, l'impôt est quelque chose de positif.
Jean-Claude Biver, Christian Levrat vous écoute sans doute avec beaucoup d'attention, président socialiste suisse. Christian Levrat, j'imagine que vous avez vu Warren Buffett et puis président de Ferrari en Italie qui demandait à payer plus d'impôts. Quand vous entendez Jean-Claude Biver, vous vous dites ouais, en Suisse ça va, les riches sont assez taxés, il n'y a pas besoin de ce même genre d'appel.
La question, elle ne concerne pas tellement la taxation de ce que vous appelez les riches. La vraie question, c'est la question de la cohésion sociale. C'est de savoir, est-ce qu'on a une société qui se développe avec des groupes qui s'éloignent toujours les uns des autres, ou est-ce qu'on a au contraire un renforcement du lien social? Et moi, ce qui me paraît primordial, c'est que les plus aisés chez nous jouent pleinement leur rôle dans la société, alors qu'ils le jouent sur le plan local, sur le plan politique, pourquoi pas, dans le sport, mais qu'ils le jouent aussi en matière fiscale. Et la proposition d'un impôt sur les successions que nous faisons aujourd'hui va complètement dans cette direction. Voyez-vous, on taxe le travail, on taxe l'effort, on taxe la créativité. Monsieur Biver en sait quelque chose. Lorsqu'on parle d'impôt sur les successions, ce qu'on propose, c'est de taxer la chance d'être bien né. C'est l'impôt, je dirais, le moins douloureux pour celles et ceux qui ont à le payer, parce qu'ils n'ont fourni aucun effort pour arriver à ce capital-là. On taxe finalement une forme de chance. Et lorsque, comme nous le proposons, il est prévu d'avoir un montant de 2 millions libres d'impôts, des règlements spécifiques pour les entreprises agricoles. Je crois qu'on est sur une proposition raisonnable, équilibrée, qui permettrait de corriger un peu la tendance à laquelle on assiste aujourd'hui, qui voit les classes moyennes s'appauvrir. Le pouvoir d'achat des classes moyennes a diminué entre 1998 et 2008, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, alors que les plus aisés ont vu leur revenu progresser de plus de 20% durant la même période.
Philippe Quesnel, vous entendez Christian Levrat, c'est vrai, finalement, c'est à partir de 2 millions, c'est une initiative fédérale, hein, on va taxer les héritages. Vous êtes d'accord avec ça?
Écoutez, je crois deux choses. Premièrement, Et moi, je partage entièrement ce que dit M. Bivert. Moi, je paye aussi mes impôts avec plaisir, parce que je pense qu'effectivement, on doit payer des impôts. Simplement, on paye des impôts avec plaisir quand ils sont équitables. Or, ce que M. Levrat doit savoir, et il le sait, j'espère, c'est que les gens qui quittent des pays, ils quittent les pays où il y a un impôt sur la fortune et un impôt sur les successions. Le citoyen, il est d'accord de payer un impôt sur la fortune ou un impôt sur les successions, mais il n'est pas d'accord de payer les deux, parce que vous payez toute votre vie un impôt sur la fortune et ensuite un impôt sur les successions. Et je répète qu'en Suisse, et je le souligne, on paye beaucoup d'impôts et on a un impôt sur la fortune et un impôt sur les successions. Donc, si vous voulez, si il est relativement faible dans certains cantons, soit, mais il existe déjà, si maintenant on met un impôt sur les successions trop élevé, eh bien, les gens payeront plus leur impôt et partiront. Maintenant, la deuxième chose, ce que je trouve très déplaisant, et moi, il y a des choses que font les socialistes que je trouve très bien, je tiens à être très clair. Par exemple, prôner l'aide sociale, etc., la lutte que font certains contre le racisme et la xénophobie, je trouve très bien. C'est pas contre. Ce que je trouve dommage et ce que je regrette avec le Parti socialiste aujourd'hui, c'est qu'au fond, le Parti socialiste se met sur la même ligne électoraliste que l'UDC. Dans le sens, l'UDC, c'est la lutte contre les étrangers. Le Parti socialiste, c'est la lutte contre les riches. On multiplie les initiatives comme ça durant toute l'année électorale. On peut dire, voyez, on lutte pendant toute la période électorale. On peut dire, on lutte contre les riches, on lutte contre les riches. Et moi, personnellement, j'espère clairement que les victorieux des élections du mois d'octobre, ça sera le Parti démocrate chrétien, le Parti radical libéral, qui ne mettent pas cette ligne. Et ça, moi, je trouve que le Parti socialiste, c'est indécent de s'en prendre. Parce que quand vous dites quand le Parti socialiste dit comme par hasard, on taxe à 20% uniquement en dessus de 2 millions. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchent pas leurs électeurs qui sont en dessous, alors qu'on touche toutes les successions. Pourquoi une limite à 2 millions?
Christian Levrat, d'abord, ouais, double peine, on paye deux fois les impôts, puis vous, comme l'UDC, vous avez un ennemi, c'est les riches.
Bon, je vais répondre sur les deux points. D'abord, l'impôt sur la fortune est payé par celui qui constitue une fortune, et il est payé de son vivant comme signe de solidarité et d'appartenance à la société. L'impôt sur les successions est payé par les très riches héritiers c'est la même fortune, mais ce n'est pas le même sujet. C'est un sujet fiscal différent. On est bien obligé d'en tenir compte. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier dans tout ce débat, c'est qu'il faut que des gens payent des impôts et que les impôts que ne payent pas les super riches, parce que au cours des dernières années, on a supprimé l'impôt sur les successions. Laissez-moi terminer. Qu'au cours des dernières années, on a supprimé l'impôt sur les successions dans 23 des 26 cantons. Cet argent-là, il est payé par les classes moyennes.
En fin de compte,
quelqu'un doit payer ses impôts. Et lors des dernières années, la charge fiscale qui repose sur les très hauts revenus a diminué en moyenne suisse, alors qu'elle a augmenté pour les classes moyennes, suite à notamment toute une série de taxes qui sont prélevées, à commencer par les taxes d'assurance maladie. Donc il est indispensable de rééquilibrer l'effort qui est fourni par les uns et par les autres, et c'est ce que nous proposons.
Alors Jean-Claude Bivert,
attendez, juste sur le reproche électoral.
Mais votre ennemi, les riches.
L'ennemi, les riches. Je crois que j'ai commencé mon explication en vous disant que mon véritable souci, c'est celui de la cohésion sociale. C'est celui de mener une politique pour tous, et non pas pour quelques-uns, de défendre l'intérêt général et pas quelques privilégiés. Et il s'agit pour moi pas de dresser les gens les uns contre les autres, mais au contraire, d'appeler les plus aisés parmi nos compatriotes à leur responsabilité.
Alors on va voir ce qu'on
pense
Jean-Claude Bivert.
De les lier aussi au développement de l'État, des prestations de l'État et de notre société en général.
Jean-Claude Bivert, ça vous convainc les propos de Christian Levrat, ou est-ce que vous dites je suis un peu l'ennemi du PS parce que je suis riche, la vache à lait, on vient chercher l'argent chez nous?
Je dirais que grâce au bouclier fiscal, je ne paye que 60% au niveau fédéral et dans le canton de Vaud 70%. C'est vrai que c'est assez démotivant quand les deux tiers partent à l'impôt. Mais on a le Lavaux, on a un climat extraordinaire, on a un pays de cocagne, donc on est tous d'accord. Mais à partir d'un certain moment, s'il y a encore plus, et qu'on arrive à 80%, c'est plus possible. Parce qu'on se dit, mais je fais quoi? Donc il y a toujours une barrière au-delà de laquelle il ne faut pas aller.
Mais Jean-Claude Bivert, sur l'héritage, j'imagine que vous avez envie de transférer à vos héritiers, à vos descendants, votre patrimoine. L'initiative du PS, vous en pensez quoi?
Moi, je pense qu'on vole les morts. On me vole moi une fois que je suis mort. On me prend de vivant et on me prend encore une fois quand je suis mort. Donc on me prend deux fois. Même après ma mort, on me prend l'argent.
Mais M. Bivert, vous n'êtes pas d'accord pour considérer que la fortune des hauts revenus sont justifiés par des prestations exceptionnelles, par un effort particulier.
Elle est déjà taxée, la fortune. Elle est déjà taxée, justement, monsieur Levrin.
Vos héritiers héritent finalement, reçoivent cet argent sans avoir fourni cet effort particulier. Par conséquent, il est assez logique qu'ils payent un impôt
là-dessus. Jean-Claude Biver, c'est logique.
Non,
on taxe la chance.
Alors, on va taxer à la naissance, et on va taxer à la mort, et on va taxer pendant la vie. Donc, pour finir, on va vivre dans les taxes. Non. Moi, je pense que, comme M. Kennel, et comme beaucoup de gens, la fortune, d'abord, c'est des sacrifices pour la famille. C'est pas un sacrifice pour moi seulement. Pour moi, c'est même un plaisir de travailler. Mais pour la famille, pour les enfants qui me voient pas, pour les déplacements, etc. C'est aussi toute une famille en souffre du travail, finalement.
Mais c'est le cas de beaucoup de monde qui n'arrive pas à constituer une fortune.
C'est pour ça qu'il faut traiter tout le monde de la même manière.
Mais Philippe Kennel, d'un point de vue démocratique, est-ce que c'est pas bon que les enfants, effectivement, comme le dit Christian Levrat, reçoivent comme ça, par chance, bonne naissance, pas mal d'argent, qui donne un peu leur dû? C'est plus démocratique, non?
Ouais, vous savez, moi j'ai reçu beaucoup à ma naissance, mais je m'excuse, mais c'était pas de l'argent, quoi. Alors je veux dire, on peut recevoir beaucoup d'autres choses que de l'argent. Alors que si je vois, pour Monsieur Levrin, la seule chose qu'on reçoit à la naissance, c'est de l'argent. Vous me décevez franchement sur
Monsieur
la vision
Kennel,
que vous avez de l'humanité.
Donc pour moi, ouais,
mais je reviens là-dessus. Non, mais je reviens
débat.
Là-dessus. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Donc vous savez, on reçoit beaucoup d'autres choses que l'argent. Donc, mais pour moi, ce qui est vraiment fondamental, et ça, c'est que dans un pays, vous pouvez avoir soit un impôt sur la fortune élevée, soit un impôt sur les successions élevées. Si vous avez les deux, les gens fraudent. Et c'est exactement le cas de la France. Aujourd'hui, en Suisse, on a un impôt sur la fortune élevé dans beaucoup de cantons, et on a un impôt sur les successions élevé, parce que M. Levrat, vous dites qu'on l'a supprimé. Mais je suis désolé, on l'a supprimé en ligne directe et en conjoint survivant, mais en ligne indirecte, il existe aussi. Vous avez des gens,
ça,
je sais pas si
ça.
Vous avez des gens qui n'ont pas d'enfants, vous avez des gens qui donnent à des neveux, etc., etc. Donc vous devez aussi
c'est
penser. Donc on ne peut pas cumuler les deux, et l'initiative tend à cumuler les deux.
Christian Levrat, là, vous touchez quelque chose de très sensible. Les socialistes, un peu la chair de sa chair, on touche à la famille qu'on a envie de donner à ses enfants. Ça va être très, très émotionnel aussi comme débat.
Alors ça va être un débat émotionnel, mais je m'en réjouis, parce que la véritable question, c'est est-ce qu'on taxe la chance, simplement la bonne naissance, la chance d'hériter d'une fortune, ou est-ce qu'on taxe le travail? Lorsqu'on souhaite affecter ses revenus à l'AVS, ce qu'on dit par là même, c'est qu'on ne souhaite pas augmenter les prélèvements sur les salaires. Et on souhaite que les plus aisés, ceux qui ont la chance de bien être, soutiennent un peu ceux qui, au quotidien, doivent travailler pour gagner un minimum. Et ce qu'on souhaite, c'est rééquilibrer un peu la charge fiscale entre, d'un côté, les classes moyennes et les milieux populaires, et puis, de l'autre, des super riches. Alors, ça va être très émotionnel. Il faudra choisir, pour être aussi polémique que Monsieur Kennel, je dirais, entre les salariés et les fils à papa.
Ouais, Jean-Claude Biver, les salariés, les fils à papa, j'imagine que ça résonne un peu différemment à vos oreilles.
Vous savez, moi je suis plus admiratif des travailleurs que des fils à papa, mais ceci dit, un fils à papa qui arrive à gérer la fortune de son papa, il a tout autant de mérite, et les fils à papa n'ont pas souvent les papas qu'on souhaiterait avoir. Donc on peut pas comme ça schématiser le fils à papa il est bien et le travailleur il est mal, et ou l'inverse. Donc moi le fils à papa, j'ai autant de respect de lui que du travailleur.
Ouais, je vous remercie beaucoup Jean-Claude Biver d'être venu débattre ce soir avec nous. Vous êtes patron des Monts Hublot. Christian Levrat est avec nous également, président du Parti Socialiste Suisse. Avec d'autres, vous lanciez cette initiative pour taxer les successions de plus de 9 millions de francs. Philippe Kennel est également avocat fiscaliste et puis polémiste. On vous découvre, enfin on vous découvre pas, vous connaissez comme ça. Je vous remercie beaucoup messieurs.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Et puis on va recevoir tout de suite Anton Brender et Jacques Delplat avec nous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Anton Brender, vous êtes directeur des études économiques à Dexia Asset Management. Vous êtes professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Jacques Delplat avec nous, qu'on a déjà souvent reçu, économiste, membre du Conseil d'analyse économique à Paris. Vous êtes avec nous pour parler des dettes européennes, les euro-obligations, ce qu'on va voir le jour, un jour ou non. Mais avant cela, il y a ce sommet entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en ce moment même, et puis des premières déclarations qui tombent, Esther Coco.
Oui, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui ont réaffirmé ce soir leur volonté commune franco-allemande de défendre l'euro.
euro. Paris et Berlin proposent d'instaurer dans la zone euro un véritable gouvernement économique. Ils proposent une règle d'or sur les déficits budgétaires pour toute la zone euro. Et Paris et Berlin proposeront en septembre une taxe sur les transactions financières. Alors de toute évidence, le couple franco-allemand a voulu afficher une unité forte pour résoudre la crise, pour rassurer les marchés. En revanche, à ce stade, rien sur d'éventuelles euro-obligations, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu. Mais là, la conférence de presse est toujours en cours.
Esther Coco, merci beaucoup. Bah, peut-être réagir à ces premières nouvelles, Anton Brender, un gouvernement économique, une règle d'or, c'est un peu le frein à l'endettement qu'on connaît en Suisse, hein, que le monde entier nous envie peut-être. Une taxe sur les transactions, une taxe, sorte de taxe Tobin. Quelle réaction à chaud?
Moi, j'avoue que je suis un tout petit peu inquiet parce que il y avait un certain nombre de choses qui avaient été mises en place, on y reviendra, et j'ai l'impression que la priorité aurait été plutôt de faire fonctionner ce qui avait été mis en place que d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a une espèce de fuite en avant qui va dans la bonne direction, mais le problème, c'est est-ce que effectivement on a des chances de mettre en place et d'appliquer ces choses de façon extrêmement rapide? L'idée que le choc de l'annonce d'un gouvernement économique pour l'Europe va calmer les marchés, personnellement, j'y crois pas.
Jacques Delplat, c'est vrai que ça paraît des mesures à très long terme, tout ça?
Sur la première, on a connu qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, les Allemands et les Français entendent des choses totalement opposées. Donc, ça change pas grand-chose. Moi, je suis pour, philosophiquement, sur le long terme. Mais à court terme, ça veut rien dire, parce qu'on sait que les Français, les Allemands et encore plus les Italiens ont des choses opposées. Et puis, moi, je serais plus critique que Anton Brander, parce que nous mettre les histoires de taxes Tobin, c'est vraiment montrer qu'ils ont absolument rien compris. Il n'y a pas de problème sur les mobilités des capitaux et la taxe Tobin. Tout le monde, tous les économistes savent que c'est idiot en Europe, puisque ça taxe les actifs les plus liquides. Donc là, il n'y a pas de problème. La dette publique française, la dette publique allemande, et ça taxe pas les actifs pourris qui sont logés dans les soutes des banques. Donc, je trouve que lancer ce genre de proposition, c'est populiste, démagogique, mais c'est surtout ça montre qu'ils n'ont rien compris. Donc, ça laisse un peu inquiet.
Mais vous, Jacques Delplat, ce que vous dites aussi, c'est peut-être que on cherche mille autres mesures autres que la mutualisation de la dette, les eurobonds, les obligations européennes. On essaie de les éviter par tous les moyens.
À part tous les moyens, je pense que ça viendra. Je pense que maintenant, on vient sur les choses sérieuses. La crise de la dette en zone euro, c'est l'application de quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, qui sont les crises autoréalisatrices. C'est-à-dire que si tout le monde, du jour au lendemain, pense que l'Italie n'est plus solvable, eh ben, de facto, même si elle l'est, elle va ne plus l'être. Et donc, les gens ne vont plus acheter de la dette italienne. Contre ça, on a très peu d'instruments. Le seul instrument qu'on a aujourd'hui, c'est que la BCE rachète tout ça, mais c'est pas durable. Donc, s'il n'y a pas de dette publique commune, gouvernementale, au niveau de la zone euro, il n'y a plus de zone euro à un horizon de quelques mois.
Antoine Brander, du coup
Alors, je suis un tout petit peu moins pessimiste que Jacques Delplat. Autrement dit, on a besoin, hein, là-dessus on est d'accord, on a besoin de choses qui soient immédiatement opérationnelles. Vouloir faire des eurobonds, il ne faut pas se tromper non plus. Hein, c'est quelque chose qui va devoir passer par une modification du traité, être ratifié, etc. C'est quelque chose d'extrêmement complexe sur le plan simplement de l'évolution institutionnelle. On a mis en place un fonds de stabilisation financière qui pour l'instant ne fonctionne pas vraiment, mais qui pourrait assez rapidement être opérationnel et prendre la place sur le plan des interventions sur le marché obligataire de ce que fait la BCE. Bon, il me semble que si on veut arrêter la crise, l'enrayer, on peut le faire. Et les moyens dont dispose cette FSF ne sont pas dérisoires. Si on regarde ce qui s'est passé sur la dette espagnole et italienne en une semaine, la BCE a acheté, semble-t-il, pour 20 milliards de dettes de ces deux pays. Elle a réussi à faire redescendre les spreads de ces pays vers les niveaux où ils étaient avant la dernière vague de la crise. Donc c'est un résultat qui nous dit qu'en intervenant de façon relativement habile, au bon moment sur les marchés, eh bien on peut enrayer la contagion. Il me semble que la priorité, c'est de mettre en place ce mécanisme, de décharger la BCE du rôle qu'elle assume, parce que personne d'autre ne veut l'assumer, et pas, dans l'immédiat en tout cas, hein, d'essayer de faire une autre, de trouver d'autres solutions. Il faut faire fonctionner celles qu'on a déjà sur le tapis, parce que tout le reste est très lourd sur le plan institutionnel, et la réaction dont on a besoin est une réaction en temps réel. Et c'est ça qui manque le plus aujourd'hui.
Jacques Delplat, vous y croyez, de mesures à court terme?
Oui, alors, il y a le feu sur le marché de la dette. Donc, il y a un pompier qui est là et qui a fait bien son travail, qui est la Banque Centrale Européenne, qui est allée racheter de la dette espagnole et italienne. À court terme, on n'a guère que ce pompier pour éteindre le feu espagnol et italien. C'est là que je suis d'accord avec Anton Brenner, c'est que le Fonds européen de stabilisation, là, fameux FESF, il est très bien, mais il n'a pas plus de 440 milliards d'euros. Donc il peut traiter la Grèce, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, un tout petit peu l'Espagne. Mais l'énorme incendie qu'on a sur l'Italie et l'Espagne, ça ne peut se faire que par l'intervention de la BCE. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec Anton Brander. Il faut utiliser la BCE à court terme. Le fonds européen, il trouve que les Allemands veulent pas l'augmenter, et je pense qu'on peut pas l'augmenter à 2000 ou 3000 milliards d'euros pour soutenir l'Italie. Donc ça n'arrivera pas. Donc moi, ma recommandation, c'est utiliser la BCE dans les semaines et les mois qui viennent, qu'elle soit là pour acheter autant de dettes qu'il faut. Et puis il faut très vite, en 2012, passer sur une histoire de dette publique européenne. Là-dessus, j'ai un désaccord avec Anton Brander, je pense qu'il ne faut pas changer le traité européen. Moi j'ai fait une proposition de dette bleue et rouge, et qu'Anton connaît. Je pense qu'on peut arriver à ne pas changer le traité européen. Et une dette publique européenne, elle n'a pas du tout besoin d'être fédérale. Notre position à nous, c'est quelque chose de totalement intergouvernemental. Donc il n'y a pas besoin de refaire un tour de tous les pays pour qu'ils votent exactement le même
traité. Mais Jacques Delplace, si on prenait une comparaison fruitière, si on met toutes les dettes dans le même panier, il y aura les dettes pourries, elles risquent quand même de contaminer les dettes saines, entre guillemets, de l'Allemagne et de la France. C'est pas le risque de contaminer tout l'ensemble?
Bien sûr, vous avez raison. Donc, c'est quoi l'élément du débat dans cette histoire d'obligation européenne? Premièrement, je pense qu'il n'y a pas d'euro soutenable sans dette commune à moyen terme. Deuxièmement, comment le faire? Alors évidemment, il y a des gens qui disent, ben, il suffit de... C'est beaucoup les politiques, hein, qui disent, ben, on va mettre tout en commun. Alors on va mettre l'énorme dette italienne contre la petite dette allemande. Et on va attendre que les Allemands payent. Ça marche pas. Les Allemands n'en veulent pas. Un système par lequel l'Allemagne paierait des taux d'intérêt plus élevés qu'aujourd'hui et aurait plus de risques qu'aujourd'hui en mettant les mauvaises et les bonnes, ça marche pas du tout. Vous avez totalement raison. Nous, on a une proposition que j'ai écrite avec un économiste allemand, Jakob von Weizsäcker, qui est de mettre en commun uniquement la partie des dettes qui est la plus sûre, qui est aussi bonne que la dette allemande. Ce qu'on appelle, nous, la dette bleue, c'est la dette qui est en dessous des 60% du PIB de chaque pays participant. Et en Europe, tout pays est capable de servir, dans tous les cas de figure, une dette jusqu'à 60% du PIB. Donc, dans notre proposition, qui fait beaucoup de débats, j'ai vu tout aujourd'hui qu'elle était dans la presse internationale, c'est, une fois plus, on coupe les dettes en deux, on prend les premiers 60% du PIB, qui sont triple A, je dirais même quadruple A, dans tous les pays de la zone euro. On les met en commun, et tout ça on le vend sur le marché international aux banques centrales asiatiques, et ça fait un équivalent, un concurrent du trésor, des obligations du trésor américain.
Ouais.
Et ça permet. Et après,
alors Anton Brander,
10 secondes encore, ouais. Toute la dette qui serait au-dessus de 60%, elle serait junior, serait secondaire et pourrait faire défaut. Et comme elle est pas systémique, et ben c'est pas si grave que ça. Et
Anton Brander, ça fait rêver, non? Une dette européenne comme ça qui serait légale de la dette américaine,
non,
qu'on cherche tellement.
Tout le monde est prêt à rêver à une dette européenne qui serait légale, etc., etc. La question, c'est comment est-ce qu'on sort de cette crise? Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ces eurobonds à deux couleurs, c'est pas la réponse à la crise dans laquelle on est. C'est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu faire avant ou quelque chose qu'on pourrait faire après. La question, c'est aujourd'hui, on est dans l'urgence, et dans l'urgence, il me semble qu'on peut pas dire que le FSF ne dispose pas d'assez de ressources. Il dispose assez de ressources pour, non pas financer l'Espagne. On n'a pas besoin aujourd'hui de financer l'Espagne, on n'a pas besoin non plus de financer l'Italie, on a besoin d'être capable d'intervenir sur les marchés de la dette publique espagnole et italienne pour éviter qu'il y ait des mouvements spéculatifs de ceux qu'on a vu se dérouler au cours des dernières semaines. Et ça, le FSF peut parfaitement le faire. Il a les moyens, il ne faut pas sous-estimer les pouvoirs de le FSF. La simple chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas mis en place les différents dispositifs législatifs qui doivent lui permettre d'intervenir. On ne l'aura pas fait avant le mois d'octobre, du début d'octobre, dans le meilleur des cas, et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qu'il faudrait accélérer, plutôt que de rêver à un autre dispositif qui est bon, mais pas pour traiter de la crise dans laquelle on est.
Il semble-t-il que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont d'accord, en tous les cas à court terme. Hein. Angela Merkel qui nous dit que les euro-obligations ne sont pas la meilleure solution pour régler la crise de la dette. Idem Sarkozy, des euro-bonds prématurés mettraient gravement en danger les pays stables. Bon, le débat va sans aucun doute se poursuivre sur l'avenir de la zone euro. Je vous remercie beaucoup d'y avoir contribué, Anton Brander et Jacques Delplat. Une bonne soirée à vous.
À bientôt. Bonsoir.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le trafic est fortement ralenti entre l'échangeur du Vengeron et Coppet en direction de Lausanne. Toutefois, il n'y a plus de véhicules en panne sur ce tronçon. Le très attendu classement de Shanghai des universités vient de paraître. Il est établi par les chercheurs de l'université chinoise Jiao Tong. Un ranking très décrié, mais qui fait référence dans les milieux universitaires. Il place cette année 4 universités suisses parmi les 100 premiers de la planète. Il y a les PFZ, l'Université de Zurich, l'Uni de Genève, l'Uni de Lausanne, mais personne, pas des PFL dans les 100. Et avec nous, Dimitris Toukakis, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que c'est un oubli, les PFL, qui n'est même pas dans les 100 premiers de ce classement? Comment vous l'expliquez?
Non, certainement pas un oubli. C'est presque normal, je dirais. Il faut quand même comprendre un petit peu comment fonctionnent ces classements aux rankings internationaux. Pour revenir un peu en arrière, les agences qui élaborent ces classements utilisent des indicateurs qui mesurent la qualité des institutions dans diverses dimensions, telles que la recherche, l'éducation, le financement, la composante internationale ou la réputation, etc. Les choix des indicateurs du classement de Shanghai a été fait de manière à capter l'essence de ce qu'on appelle des universités de renommée mondiale, ou World Class Universities. Et c'est ce qu'ils font. Si on regarde la liste des institutions qui sont au sommet, c'est de Harvard, Stanford,
mais pas les PFL.
De Californie, certainement pas les PFL. Ce n'est pas fait pour, en fait. Hein. Donc, par définition, ils vont mettre en avant des institutions qui sont grandes, qui couvrent plusieurs domaines, plusieurs disciplines de recherche et d'éducation, qui ont une longue histoire et beaucoup de prix et de distinctions, bien entendu.
Ouais, mais l'Université de Lausanne, à vos côtés, c'est pas forcément une immense université non plus.
C'est une université de taille moyenne. Elle n'apparaît pas très bien dans ces rankings. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est plutôt au niveau des distinctions. Ces classements de Shanghai met en avant les institutions qui ont reçu beaucoup de prix, qui ont beaucoup d'histoire. Et puis, par exemple, les PFL, on est une institution jeune, assez petite en fait. Et puis, on a une mission très spécifique, dont l'ingénierie et les sciences exactes.
Et là, vous êtes bien classé si on prend que ces critères-là?
Alors justement, Shanghai et Jiao Tong, ils ont publié leur premier ranking il y a 7-8 ans. Maintenant, ils ont commencé à affiner leur méthodologie. Il y a des classements où on montre, par exemple, on classe les universités dans différents domaines. Par exemple, l'ingénierie et l'informatique, si on prend ces domaines ensemble, le PFL, il est numéro 20 dans le monde. Mmh. Et ça, depuis longtemps, depuis plusieurs années. On est la deuxième institution en Europe. Je crois que cette année, il y a uniquement Cambridge qui est devant nous. Et après, c'est le PFL, loin devant les autres universités européennes.
Admettons, Dimitris Toukakis, vous êtes bien classé quand on prend en compte vos compétences propres, vos domaines principaux et les PFL. Mais le problème, c'est que y a beaucoup de marketing là-dedans. Les étudiants chinois en particulier, ils ne le savent peut-être pas très bien. Ils vous ont peut-être pas entendu ce soir à Forum vos explications. Et puis, ils vont choisir une autre université en lisant ce classement. C'est un problème pour vous?
Non, c'est pas du tout un problème. En fait, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de ces classements d'universités. Il y en a en tout cas 4 ou 5, c'est un grand jeu. Les PFL s'en sortent très bien dans la plupart de ces classements. Et d'ailleurs, on n'a rien fait pour exprès pour ça. On s'en sort toujours très bien, on a beaucoup de visibilité, et puis il y a beaucoup d'étudiants qui envoient la candidature pour venir dans nos programmes, que ce soit dans les masters ou les programmes doctoraux. Donc aucun souci de ce côté-là.
Mais Dimitris Toukakis, la solution, ce serait peut-être de fusionner avec l'Université de Lausanne, ou du moins d'augmenter un peu la part des sciences sociales, comme l'a fait Zurich en son temps. C'est une piste que vous suivez, ça?
Je ne me prononcerai pas sur cette question. On collabore beaucoup avec l'Université de Lausanne, on collabore en fait avec toutes les institutions lémaniques. Personnellement, faire des changements dans le paysage académique uniquement pour les rankings, comme certains pays le font, je pense pas que c'est nécessaire. Hein. Les bonnes institutions s'en sortent toujours très bien et s'en sortent bien aussi dans les étudiants, ils savent un petit peu où ils doivent aller, où il y a une bonne institution dans leur domaine. Donc je pense pas que ça rajoutera beaucoup de fusionner. Mais c'est que à titre personnel, cette remarque
à titre personnel. Pour conclure, je vous remercie, Dimitris Toukakis, vous êtes responsable des relations internationales de l'EPFL. Excellente soirée.
Merci.
Et le CICR craint des ravages d'une cyberguerre sur les populations civiles. Aujourd'hui, la guerre se déroule en effet aussi derrière son ordinateur. Le CICR cite des opérations militaires menées contre des systèmes de communication en Géorgie, en Estonie. Il y a aussi le cas plus récent de l'Iran, dont les centrales nucléaires ont été menacées par un virus informatique en 2010. Des cyberopérations pilotées très certainement par des États. Avec nous, Cordula Droug, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère juridique au CICR. Les répercussions d'une cyberguerre sur les populations civiles, on peut dire aujourd'hui, inquiètent le CICR. Vous pouvez nous dire en quoi ?
Bon, il faut dire d'abord qu'on mesure assez mal encore les conséquences humanitaires des guerres informatiques. Les contextes que vous venez de mentionner, l'Estonie, l'Iran, n'ont pas l'air, en tout cas de ce que l'on sait, d'avoir eu des conséquences humanitaires graves sur les populations civiles. Mais en même temps, on ne peut pas exclure des scénarios dans lesquels des infrastructures civiles seraient ciblées ou seraient touchées par des attaques contre des cibles militaires. Et à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences graves, évidemment, pour ces populations-là.
Le mandat du CICR, c'est évidemment la protection des civils. Alors, traditionnellement, on connaît le CICR qui intervient lorsque deux États se font la guerre. Avec la cybernétique, on est dans un anonymat quasi complet. Très difficile, on imagine, pour le CICR d'interférer, de venir, d'agir.
Oui, effectivement, l'anonymat, c'est un des grands défis de la guerre informatique. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas d'où vient une attaque informatique, il est difficile même de savoir si elle a lieu dans le contexte du conflit armé, de quelle partie du conflit elle provient, etc. Donc il y a effectivement ce défi-là, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Je pense que tout d'abord, le CICR étant mandaté pour veiller à la protection aussi de la population civile dans les conflits, se doit d'étudier à fond la question pour savoir quelles peuvent être les conséquences sur cette population, et puis aussi de partager avec les parties au conflit ses inquiétudes et de rappeler les règles auxquelles ces parties doivent se tenir.
Cordula Drougue, évaluer la question, surveiller. On voit le droit international humanitaire aujourd'hui, pas une ligne au fond sur le cyberespace. Est-ce qu'il faudrait intégrer cette question-là dans les textes fondamentaux du droit international humanitaire ?
Bon, le droit humanitaire est de toute façon un corps de droit qui doit toujours être développé, mais qui se développe aussi ou qui s'adapte aux changements qui ont lieu de toute façon dans la conduite des hostilités. Donc c'est un peu tôt maintenant de savoir s'il faut vraiment intégrer des nouvelles règles. Des fois, ça se fait quand il y a des nouvelles technologies ou quand il y a des armes que les États décident de limiter ou dont ils décident justement de bannir l'usage. Donc par exemple les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, mais on n'en est pas là avec la guerre informatique pour l'instant. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler que les principes fondamentaux, donc le principe par exemple qu'il faut distinguer entre les cibles militaires et les civils, doit être maintenu. Et ce principe-là, il s'applique tout aussi aux nouvelles technologies informatiques, comme il s'est toujours appliqué à toutes les nouvelles technologies qui ont surgi au fil des temps.
On voit bien la complexité toujours croissante à protéger les civils dans les conflits armés. Je vous remercie beaucoup, Cordula Drougue. Je rappelle que vous êtes la conseillère juridique du CICR. Une très bonne soirée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Cette musique que vous reconnaissez peut-être si vous avez suivi les aventures du commissaire Derrick dans les années 70, c'est celle du sacro-saint Tatort, la série policière du dimanche soir sur la première chaîne de télévision allemande. Et dimanche soir, un fait rarissime s'est produit. Tous les Suisses, mais aussi les Allemands, les Autrichiens, ont pu suivre l'enquête à Lucerne du commissaire Flückinger. Un succès qui clôt une longue polémique, Alain Croubalian.
Effectivement, 6,8 millions de téléspectateurs signifient pour Volker Herres, le directeur des programmes de la ARD, la première chaîne de télévision allemande, un succès qui laisse augurer de nouveaux épisodes. Ouf ! L'honneur est sauf. Cela faisait 10 ans que les commissaires suisses n'avaient plus voix au chapitre du Tatort. Souvent, c'est la langue qui posait problème. Le dialecte était requis pour le côté typique de la série, mais incompréhensible pour les Allemands. Ce résultat est donc d'autant plus remarquable qu'il y a déjà eu plusieurs épisodes déprogrammés par la télévision alémanique, soi-disant pour cause de clichés suisses intempestifs. Mais apparemment, selon la NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, le dernier épisode aurait été déprogrammé car un des bandits défendait très clairement les thèses de l'UDC. La télévision suisse alémanique répond simplement qu'effectivement, on redoute les réactions politiques et on évite en principe toute représentation des hommes politiques ou des partis qui pourraient être compris comme un cliché. Et effectivement, pour l'image de la Suisse, le Tatort, ce n'est pas rien. Tatort, c'est sacro-saint. Tatort, c'est une des émissions cultes clés de la tradition germanophone de la télévision. Cela fait 40 ans que les Allemands et les Autrichiens, le dimanche soir, regardent la série policière avec ferveur. Et aujourd'hui, les Suisses ont rejoint ce club d'élite, la Champions League du divertissement télévisuel.
Alain Croubalion, parlez-nous de ce commissaire suisse dans une série allemande. Comment est-ce qu'il est ?
Eh bien, il est posé, très neutre, il a un grand sens des responsabilités, il est toujours très poli et correct, et souvent têtu comme une mule. En somme, il est très suisse. Par exemple, si les enquêteurs allemands ont presque tous des traumatismes qui les torturent tout le long des épisodes, le Suisse Flückiger, lui, ne montre pas beaucoup de lui-même. Et on espère juste qu'il puisse, à l'avenir, montrer un tout petit peu plus de profil ou de caractère, histoire qu'on ne tombe pas dans un autre cliché, celui de la Suisse, pays ennuyeux.
Merci beaucoup Alain Croubalion en direct de Zurich. Merci.
Forum, Philippe Reva, Laurent Keller.
Oui, la Suisse, pays ennuyeux, pas toujours, on a pu en avoir le constat à Locarno avec cette petite polémique autour du film de Fernand Melgar et les critiques du président du jury, Monsieur Branco, qui le trouvait fasciste, ce film, ça fait beaucoup parler. Bon, on va revenir un petit peu sur cette polémique pour essayer de l'élargir, se demander qu'est-ce qu'un vrai film engagé aujourd'hui. On ne fait plus les films engagés comme du temps de mai 68, peut-être qu'on y met une dose un peu plus de neutralité ou d'objectivité, on va en discuter en tous les cas, peut-être avec quelques modèles cinématographiques qu'on nous invite. Claude Muret est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes scénariste, vous avez collaboré avec Melgar et puis vous êtes co-scénariste notamment des Petites Fugues d'Iversin, film légendaire s'il en est en Suisse. Édouard Weintraub est avec nous.
Et antifasciste.
Et antifasciste, exactement. Édouard Weintraub, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du CAC Voltaire à Genève, la quinzaine des réalisateurs à Cannes, anciennement à Fribourg. On tente d'avoir également Daniel Kunzi, le cinéaste, lui, a engagé aussi beaucoup de documentaires, très connu Daniel Kunzi, qui est avec nous en direct depuis le Vietnam ou le Cambodge, mais manifestement les lignes ne sont plus ce qu'elles sont dans la région, donc on va tenter de l'appeler durant ce débat. Claude Muret, antifasciste, vous, mais comment est-ce qu'on fait des films engagés aujourd'hui? On les fait différemment, non?
Je sais pas s'ils sont différents d'avant. Ce que je sais, c'est que j'ai le souvenir des années 70 où Freddy Buache, notre cher Freddy Buache, avait lui-même dénoncé l'arrogance fasciste de la nouvelle vague. Il s'en était pris nommément à Godard. Mais on était en 70. Et donc aujourd'hui, ces mots-là, 40 ans après, ils font effectivement problème dans le sens où ils sont vides, dans le sens où ils veulent rien dire. C'est-à-dire, moi j'adore la polémique, j'adore les discussions sur les films, mais là, très franchement, de dire que le film est fasciste, le réalisateur fasciste, et surtout quand même, grande première, les 3000 spectateurs sont des collabos, j'avoue que je trouve pas ça extraordinairement constructif.
Mais profitons-en quand même pour revenir un petit peu sur la manière dont on filme aujourd'hui, parce que, alors effectivement, dans le film de Melgar, on filme les gardiens, et puis les victimes, entre guillemets, enfin les détenus, un peu de manière horizontale, on ne juge pas vraiment, on montre tout. C'est une manière de faire qu'on ferait peut-être pas, on n'aurait pas fait il y a 40 ans. Ça. On laisse le spectateur plus.
Effectivement. Mais ceci dit, je ne pense pas qu'il faille rattacher ces éléments-là à des questions d'époque, etc. Je crois que c'est vraiment des styles de réalisateurs, des styles de documentaristes. Et moi, je trouve que même si j'étais proche, effectivement, de documentaires beaucoup plus engagés, qui prenaient position sur les choses, etc., pour moi, il n'y a pas de différence de fond. C'est-à-dire, le travail de Melgar, c'est un travail de documentariste 100%. C'est vrai que dans cette discussion, il y a un facteur qui... Mais cette discussion pourrait avoir lieu, c'est pas la question. C'est vrai que Melgar aborde des institutions du côté du Manche, c'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation pour la forteresse à l'ODM, à l'Office fédéral d'immigration. Il faut demander au Conseil d'État, puisque pour Frambois, vol spécial, c'est un établissement qui dépend d'un concordat intercantonal. Donc c'est vrai que c'est le pouvoir, en gros, qui donne accès au truc. Mais... Enfin, à la place. Mais de là à en faire quelque chose qui pèse totalement sur le film, moi, je crois pas à ça. Je crois pas qu'il y a une différence de nature entre le travail documentaire d'un Melgar et le travail documentaire tel qu'il a pu exister avant.
Daniel Kunzi est avec nous, finalement, en direct. On vous en remercie, Daniel Kunzi. Je disais en ouverture du débat, peut-être qu'on fait différemment aujourd'hui, on s'engage différemment dans les films. C'est un regard un peu plus neutre, entre guillemets, objectif, entre guillemets. On impose moins au spectateur, on le laisse plus décider.
C'est peut-être plus triste que ça.
certains s'engagent en faveur du régime. Auparavant, on s'engageait pour contester le régime. Aujourd'hui, et là, je dois voir que de glissement en glissement, la pensée unique s'est aussi imposée dans le monde de la culture et du cinéma en particulier. C'est la vie.
Mais vous disiez tout à l'heure, Daniel Kunzi, il y a quelque chose de suisse là derrière ?
Oui, bien évidemment, il y a un syndrome suisse en particulier, vu que tout bon Suisse doit naître neutre, donc on peut contester les excès du régime suisse, mais on n'a encore contesté le régime frontalement.
Édouard Weintraub, vous pouvez partager cette analyse de Daniel Kunzi ?
Ouais, je sais pas, je peux pas partager totalement dans le sens où je suis suisse depuis peu de temps, si j'ose dire. Mais en tout cas, c'est pas le cas du film de Melgar. Melgar, il prend peut-être le spectateur tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire neutre et suisse, mais il l'amène ailleurs. C'est-à-dire au départ, il descend dans cet enfer très clean qui est le centre de Framboise avec les gardiens. Mais très vite, c'est plus les gardiens qui l'intéressent. Ce sont les gens qui sont gardés. Et donc, on fait un voyage avec lui. C'est-à-dire qu'au départ, on descend en effet avec le pouvoir et on part avec le malheur des gens qui sont envoyés dans ces vols spéciaux. Donc, je pense que de ce côté-là, faut vraiment avoir arrêté de voir le film au bout d'un quart d'heure pour juger le film fasciste. Parce que si, en effet, au bout d'un quart d'heure, on aurait pu penser ça. Mais très vite, on ne s'intéresse plus qu'à Jordi, à Serge, enfin, à tous ces...
Et ça, c'est propre, Edouard Weintraub, aux gens qui font des documentaires aujourd'hui, cette manière de faire ?
Non, je pense que d'abord, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on fait des documentaires comme ça. Les grands documentaristes américains des années 60, ceux de Drew Associates, ceux qu'on fait de Cher, notamment contre la peine de mort aux États-Unis, ils faisaient ça d'une manière apparemment objective et en se mettant à la hauteur des gens qu'ils filmaient, en n'ayant pas un point de vue surplombant, c'est-à-dire en ne donnant pas de jugement a priori, ils n'embouchaient pas la trompette pour dire « Oh là là, quel malheur » ou « Oh là là, quel bonheur ». Mais il montrait les choses et à partir de là, il faisait confiance évidemment au public. Ça a marché ou ça n'a pas marché. La peine de mort, que je sache, n'est pas malheureusement abrogée complètement aux États-Unis, loin de là. Mais en tout cas, c'est une vision, je dirais, démocratique. Dans le film de Melgar, il n'y a pas une neutralité.
Mais Daniel Kunzi, ce que nous dit Edouard Weintraub, c'est intéressant. C'est peut-être plus subtil ou voire même plus efficace pour une cause quand on avance de manière plus délicate comme ça.
Bah, d'autant plus que les grandes idéologies, elles sont un peu, elles ont pris quand même du plomb dans l'aile. Si c'est au nom du marxisme-léninisme, dont certains cinéastes, autrefois, avec lesquels se parfumaient certains cinéastes, qu'il faut combattre aujourd'hui, ça serait quand même un peu difficile.
Daniel Kunzi, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, à propos des grandes idéologies, je crois qu'on en voit une se fracasser sous nos yeux en ce moment même. C'est la grande idéologie capitaliste, le rêve d'un monde pacifié, d'une période qui serait maintenant exceptionnelle étant donné l'écroulement de l'Union soviétique. Or, il n'en est rien. On a devant nous un régime, le régime capitaliste, qui est plus broyeur d'humains qu'on n'en a jamais vu sur cette terre.
Oui, mais Daniel Kunzi, si vous voulez le dénoncer, ce capitalisme, est-ce que c'est pas plus efficace avec, entre guillemets, la méthode Melgar ou le documentaire Cher dont parlait Edouard Weintraub, est-ce que c'est pas plus efficace de cette façon-là qu'avec un documentaire qu'on identifie tout de suite avec une thèse qui se développe ?
Non, je m'excuse, mais un cinéaste ne fait pas un programme politique. Alors, il y a certains cinéastes qui se limitent à montrer les choses telles qu'elles sont, d'autres qui ont plus d'envergure probablement et qui tentent d'expliquer pourquoi le monde est tel qu'il est, et ce qui peut donner évidemment des idées pour le transformer, mais quand un cinéaste ou n'importe quel artiste se met au service d'un régime quel qu'il soit, son art, il prend un sacré coup.
Claude Muret.
Moi, je suis pas très partisan de ces grands jugements sur les pays. C'est-à-dire, je crois aux singularités des cinéastes et je crois aux singularités des démarches. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est suisse. Mais ce qui est aussi suisse, c'est pas seulement du côté du cinéma. Ce qui est suisse aussi, c'est que des institutions importantes, on donne accès à des cinéastes à ces institutions. Ça, c'est quand même assez étonnant. Ça se passerait pas en France. En France, vous pouvez pas aller tourner dans un CRT, un centre de rétention là, transitoire. C'est impossible. Et là, le seul truc qui a été interdit à Melgar, c'était d'aller filmer dans l'aéroport le moment où ils soumettent les expulsés à un traitement terrifiant qui consiste effectivement à mettre des couches, à mettre un casque, à mettre des menottes, etc. parce que, disait-il, on ne peut pas filmer des gens en situation d'humiliation et en situation dégradante, ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'ils acceptent l'idée qu'eux, ils se livrent à des mesures dégradantes et humiliantes. Mais juste un point sur ce qu'a dit Weintraub qui m'a amusé, parce que il dit un type qui regarde un film plus de 15 minutes, il peut pas dire ce qu'il dit. Et au fond, il y a un article qui va paraître demain dans 24 heures, dont j'ai eu la primeur, c'est quelques considérations de monsieur Bronco, qui a été relancé par un journaliste. C'est là qu'il dit où il y a eu 3000 collabos parmi les trucs et tout ça. Et puis, il dit un truc assez stupéfiant. Il dit, il y a un mort dans le film, ce qui est vrai. Et il en veut beaucoup à Melgar de ne pas avoir, après la mort de ce type, qui était un Nigérian qui a été maltraité à Zurich, de ne pas avoir effacé les images de ce type. Mais il pouvait pas les effacer puisqu'il n'est pas dans le film. C'est pas un des héros de Vol Spécial. Donc, pour un professionnel comme Bronco, effectivement, je me demande s'il a vu le film jusqu'au bout. Parce que c'est une confusion tellement incroyable. Je sais bien que les Blancs confondent souvent les Blancs, les Noirs et réciproquement. Mais quand même, à ce point-là, il y a un problème.
Ouais, ça nous ramène au film lui-même. Peut-être sur le fond, Edouard Weintraub, ce que reprochait Bronco aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas désigné, en quelque sorte, les coupables, entre guillemets, ou les responsables, qu'on ne les ait pas confrontés. Là, comment vous jugez-vous cette critique?
Moi, j'ai vraiment pas vu le même film. C'est-à-dire, moi, je suis sorti de là écœuré d'une certaine hypocrisie, de gens qui se donnent un bonne conscience, en étant en effet relativement gentils par rapport à ce qu'il y a dans d'autres centres de rétention. On parlait de la France, ça doit être un peu plus violent par là-bas, ça c'est certain. Mais à la fin, on est quand même, c'est l'hypocrisie qui apparaît. C'est-à-dire que quand même, la fin, c'est la même. C'est-à-dire, on met en paquet, si j'ose dire, l'expulser dans un avion et on l'envoie loin. D'ailleurs, on casse sa vie et parfois même, on lui prend la vie, puisqu'il y a un mort dans l'histoire, même si on la voit pas, la mort, même si ce n'est pas un des acteurs, si j'ose dire, du drame avant, ça apparaît quand même aux trois quarts du film, et c'est quand même un des événements importants de la fin du film. Donc, à ce niveau-là, je comprends plus les arguments. Il y a quelque chose moi je suis sorti révolté par le film. Donc on est arrivé avec les gardes, je suis sorti contre les gardes réellement. Donc il y a eu quand même un chemin qui a été fait avec le film, et je pense que ça c'est totalement voulu par Melgar. C'est un film qui est, moi je trouve, très engagé, mais en effet d'une manière plus subtile, et puis aussi parce que peut-être il veut montrer ce film aux gens comme ils sont. Et aujourd'hui on sait très bien que par rapport à l'immigration, c'est pareil dans toute l'Europe, pas seulement en Suisse, on a un sentiment négatif par rapport à l'immigration. C'est vrai qu'en voyant le film, on se dit que les expulsions c'est un mal bien pire que le mal que soi-disant certains dénoncent.
Claude Muret, quand on parle d'une thématique comme celle de l'expulsion de requérants et qu'on veut montrer l'humanité au fond à la fois des geôliers et des requérants, est-ce qu'on est toujours dans le dosage, dans l'équilibrage? Il faut donner tant aux geôliers, tant aux requérants. Comment on fait pour pas finalement créer éventuellement des réactions comme Bronco, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec l'équilibrage au fond.
Oui, tant mieux. Ça, c'est clair que les avis sur le film, c'est très important qu'elles soient discutées. Mais disons, il n'y a pas ce type de calcul. C'est-à-dire, quand on procède par immersion, comme le fait Melgar, effectivement, j'aime beaucoup ce qu'a dit Weintraub. Tu suis une évolution. C'est-à-dire, en tant que spectateur, tu rentres du côté du manche, comme je l'ai dit, mais effectivement, très vite, tu es avec les personnages qui sont les vrais héros du film. Après, toutes les questions sur l'humanité, l'inhumanité. Par exemple, c'est incroyable. Pourquoi on parle pas de fascisme ordinaire à propos d'une femme qui, à 7 mois, est enceinte, on lui met les menottes? Pourquoi on parle pas des types qu'on amène devant le juge de paix avec les chevilles entravées? Ça, c'est dans le film. Alors après, la question de juger les bourreaux, comme on les surnomme, qui me paraît un grand mot, c'est des fonctionnaires d'abord. Fonctionnaires peuvent être des bourreaux, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est comme si Melgar était responsable de A à Z de tous les dosages du film. C'est pas vrai. C'est le spectateur qui fait le film. Lui, il propose une immersion, il fait son travail de documentariste, et après les spectateurs décident quoi.
Merci beaucoup Jean-Louis Muret. Claude Muret, j'allais dire Jean-Louis Muret. Claude Muret d'être venu avec nous. Daniel Kunzi en direct de l'Asie, très loin là-bas, en direct aussi. Je vous remercie Daniel Kunzi, Edouard Weintraub. On a évoqué un petit peu la thématique du film engagé. On en débattra sans doute encore à l'occasion. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée.
Merci.
Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir.
La météo, c'est Carole Dubuis.
La journée qui s'achève restera bien ensoleillée avec des températures dignes de l'été. Demain, on profitera d'un temps généreux en soleil et en chaleur avec un minimum de 14 degrés le matin et des maxima qui se rapprocheront des 28 à 30 degrés l'après-midi. Le ciel restera bleu, un vent faible à modéré d'ouest-sud-ouest habitera la montagne et il fera 0 à 4300 mètres. La journée de jeudi sera encore belle, mais le temps pourrait être lourd avec 31 degrés au maximum en plaine. Des précipitations orageuses isolées pourraient intervenir en fin d'après-midi le long du Jura et des Préalpes. Durant la nuit, elles pourraient être plus nombreuses, toujours à l'est et au nord de la Suisse romande. Une perturbation caressera le nord de notre pays vendredi. Le temps sera influencé. Il y aura moins d'ensoleillement sur nos régions et une possibilité d'averses et d'orages en matinée déjà. Les températures resteront tout de même fidèles à la saison estivale.
La météo avec le BPA et la campagne de prévention. Attention, enfants sur le chemin de l'école.
Infotrafic RSR
avec Café Kikodoro et son système à capsule.
De forts ralentissements sont constatés sur l'autoroute Genève-Lausanne entre l'échangeur du Vengeron et Coppet en direction de Lausanne. C'est la fin de cette édition de Forum. On vous remercie de l'avoir suivi. Fabrice Araldi et Jean-Bernard Pfulg à la technique. Il est 19h sur la première. Excellente soirée à tous.